100 ans d'histoire. Innovation scientifique, relations internationales et succès culturel. Jean Saraméa, historien, raconte les années décennales anniversaires de 2024.
Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre aimable écoute. Alors là, bon anniversaire à toutes celles et ceux qui ont 80 ans, donc qui sont nés en 1944. Et 1944, c'est une année d'une densité événementielle majeure. Et évidemment, cette année 2024, autour du 6 juin, autour du 15 août, mais pas seulement, parce qu'il y a aussi tous les drames de la résistance, Vercors, Glières, etc. Parce qu'on a bien oublié que entre les deux débarquements, donc entre le 6 juin et le 15 août, l'armée allemande a compris pour elle le danger que représentaient les maquis et va détruire la quasi-totalité des maquis en France. De telle sorte qu'il ne reste presque pas de maquis opérationnels, sauf dans des montagnes ou dans des zones où l'armée allemande n'était presque pas présente pendant l'été. Alors, rappelons quelques faits majeurs, mais bon, il faut choisir, bien sûr. En Europe, c'est la très longue bataille de Monte Cassino, donc au nord de Naples, entre Naples et Rome, une bataille qui dure quasiment 6 mois. Et ce sont les troupes de l'armée française, on dit le corps expéditionnaire français, sous la direction du général Juin, qui vient d'Afrique du Nord, qui va forcer le passage au pied du Monte Cassino et permettre aux armées anglaises, polonaises et américaines et françaises de prendre Rome, donc la première grande capitale des pays de l'Axe. Rome est prise le 4 et le 5 juin, la veille du débarquement de Normandie. Et les Allemands résistent tellement bien avec des troupes extrêmement aguerries, s'accrochent aux montagnes, et le rush, entre guillemets, des armées alliées va s'arrêter à Florence, et l'Italie du Nord sera toujours sous occupation allemande, plus les fascistes de Mussolini, jusque fin avril 45. L'Italie est déchirée, l'Italie est détruite, parce que ce sont les bombardements alliés sur les usines, sur les villes, les ponts, les gares, etc. Disons, entre Naples et la frontière allemande, voire la frontière française, l'Italie vit, on l'a bien oublié, mais vit un martyr pendant cette année 44 et jusqu'au début mai 45, avec en plus une guerre civile. Une guerre civile entre ceux qui sont pour le roi, les communistes, ceux qui ont pris parti pour Mussolini, voire pour les Allemands, et c'est absolument terrible. Les bombardements alliés dont on vient de parler sont également massifs sur l'Allemagne, mais aussi sur la France. Il s'agit de préparer les débarquements en paralysant le plus possible les déplacements de l'armée allemande, donc les ponts, les gares, les usines qui travaillent pour l'économie de guerre allemande, avec la destruction de tous les quartiers qui sont autour. Autrement, à l'est, l'armée soviétique reprend Leningrad, reprend l'Ukraine, libère la Roumanie, et arrive à la fin de l'année à Budapest et a repris une grande partie de la Pologne. Beaucoup plus à l'est, l'armée anglaise se bat en Birmanie contre les Japonais, donc très loin du Japon, et les flottes américaines et les fantassins américains ont énormément de mal à conquérir île par île dans l'océan Pacifique, les archipels des Marshall, des Mariannes, des Salomon, puis des Philippines à la fin de l'année. On est loin de la fin de la guerre dans le Pacifique contre le Japon. Logiquement, peut-on dire, la Croix-Rouge est désignée prix Nobel de la paix cette année-là. Le président Roosevelt est élu pour un quatrième mandat qu'il ne terminera pas. Il est de plus en plus malade, surtout au niveau cardiaque. Et la libération de certains pays n'est pas facile. La Grèce est en guerre civile entre la résistance pro-occidentale, disons, et la résistance monarchiste. L'Allemagne, en 1944, elle met la main sur la Hongrie, déporte et extermine les 700 000 juifs hongrois. 44, en récupérant 40 kilos de dents en or. Le 20 juillet, comprenant que l'Allemagne ne peut plus gagner la guerre, des officiers supérieurs essaient de tuer Hitler, l'attentat rate et va engendrer une terrible répression à l'intérieur de l'Allemagne. Mais il faut bien comprendre, dans un contexte qu'on a souvent oublié, que Hitler est toujours persuadé, et une grande partie des Allemands aussi, de gagner la guerre grâce aux armes nouvelles, en particulier les fusées, les V1 et les V2, que les Alliés ne maîtrisent absolument pas, et avec aussi les premiers avions à réaction, qui vont très haut et à une vitesse, ils surclassent tous les avions alliés. Les Alliés ont bien compris le risque et vont bombarder en priorité les usines d'essence synthétique, de telle sorte que l'armée allemande va manquer de carburant pour faire voler ces avions à réaction et pour les chars. Autrement, les armes nouvelles sont une réelle menace, parce que c'est une avancée technologique. Par chance pour l'Europe, Hitler n'a pas voulu donner priorité à l'arme atomique, mais il aurait pu, parce qu'il avait confiance dans toute une série d'armes nouvelles, pas seulement les fusées, il y avait les bombes planantes, il y avait de nouvelles armes qui, jusqu'au printemps 45, persuadent Hitler qu'il peut retourner en sa faveur le cours de la guerre. En France, le maréchal Pétain, jusque début août, est toujours à la tête de la France occupée, bien que n'ayant que peu de pouvoir réel. C'est l'Allemagne nazie qui dirige en réalité la France en s'appuyant sur les ultras de la collaboration à Vichy et à Paris. Autrement, le général de Gaulle, qui est à Alger, met en place les institutions de la libération, le personnel de la libération, c'est-à-dire les futurs préfets. Donc, à mesure que la France sera libérée, à partir donc de juin, mais surtout d'août-septembre 1944, les institutions républicaines sont préparées, les lois républicaines sont préparées, entre autres le droit de vote pour les femmes, qui ne se concrétisera qu'en 1945, et également tout le personnel républicain qui va sans trop de problèmes remplacer le personnel mis en place par le maréchal Pétain auparavant. Et puis sur le plan militaire, à partir du mois de juillet 1944, le général de Gaulle désigne le général Delattre de Tassigny pour être à la tête de l'armée B, mais qui va rapidement s'appeler l'armée française. C'est-à-dire c'est le retour de l'armée française dans la guerre, aux côtés des alliés, ce qui permettra à la France d'être dans les instances, y compris l'ONU, mises en place à la fin de la guerre. Un chiffre qui ne trompe pas. Lors du débarquement de Normandie, il n'y a que 177 Français. La France est absente du débarquement de Normandie. Lors du débarquement de Provence, le 15 août 1944, sur les côtes varoises, il y a 280 000 soldats français, en provenance de tout l'Empire, bien sûr, mais aussi de métropole, 280 000 soldats français sur 380 000. C'est le retour de l'armée française pour libérer le sol de la mère patrie. Armée française autour de laquelle vont s'agréger, s'agglomérer les maquis, les FFI, les forces françaises de l'intérieur qui vont être intégrées à l'automne dans l'armée française. Rappelons Paris libéré le 25 août, la 2e DB qui n'a débarqué en Normandie que le 1er août, hein, en provenance du Royaume-Uni. La deuxième DB a été formée au Maroc, qui était protectorat français. Strasbourg est libérée à la fin du mois de novembre, mais pendant l'hiver, à période de Noël et janvier 45, il y aura le retour de la menace allemande qui est présente en Allemagne, bien sûr, qui est présente, n'oublions pas que l'Allemagne va jusqu'en Alsace, et qui est présente, l'armée allemande va faire la bataille des Ardennes à partir de Noël, et ça va jeter un froid dans toutes les populations qui ont été libérées. Sur le plan politique, très important, c'est fin octobre que le gouvernement provisoire de la République française, le GPRF, dirigé par le général de Gaulle, est reconnu par les Alliés. Ça s'est pas fait automatiquement, hein, c'est fin octobre seulement. Et en décembre, le général de Gaulle s'envole à Moscou, vers Moscou, pour rencontrer Staline et négocier à la fois son rôle parmi les Alliés, avec l'appui de Staline, parce que c'est bien connu, Eisenhower n'était pas extrêmement favorable au général de Gaulle. Voilà, et avant de passer une chanson très célèbre, la conférence de Bretton Woods, très important, c'est dans l'État de New York, ce sont des chefs politiques, mais surtout des économistes qui se réunissent aux États-Unis pour décider de la remise en ordre de l'économie mondiale et surtout des monnaies après la fin de la guerre qui évidemment se profile. Et c'est là que on s'aperçoit que les États-Unis deviennent la seule grande puissance planétaire au niveau monétaire. Ils détiennent plus des deux tiers des réserves d'or de la planète. Au niveau militaire, ce sont les seuls à pouvoir projeter leur armée n'importe où dans le monde et rapidement. ils ont un niveau de recherche scientifique et militaire exceptionnel, même si la recherche de la bombe atomique est totalement secrète en 1944. Et donc, à la fois les premiers taux de change dans le monde libéré et le rôle économique des États-Unis, la mise en place du Fonds monétaire international qui est programmé et qui existe toujours, qui est le grand gendarme, entre guillemets, des équilibres ou des déséquilibres monétaires dans le monde, ça se décide en 1944 à cette conférence de Bretton Woods. Alors, les chansons. Eh bien, on doit dire que les radios en France métropolitaine ou la radio sont contrôlées par l'Allemagne nazie jusqu'en août 44. Ensuite, la priorité est à la libération du territoire et peut-être pas à la diffusion de chansons en dehors de marches militaires, la marche de la deuxième DB par exemple. Donc, la chanson peut-être la plus emblématique de 1944, c'est Douce France par Charles Trenet.
Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Mon village, aux clochers, aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tendre insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur.
Sur le plan culturel, eh bien, ce sont les débuts du chanteur Yves Montand à l'ABC. Jean-Paul Sartre fait jouer, comme pendant les années précédentes, à Paris, ces pièces qui font réfléchir en 44, ces huis clos. Et puis, alors, après la libération de Paris, bien sûr, le 18 décembre, c'est le premier numéro du Monde. Comme dans toutes les provinces françaises libérées, se remet en place une presse libre, même avec du mauvais papier et très peu de pages imprimées à cause du rationnement et des difficultés d'approvisionnement. Mais n'oublions pas que par ici, le Dauphiné libéré, c'est symbolique. Les disparitions, alors il y a les disparitions de personnalités liées à la guerre, c'est-à-dire en général assassinées par la milice. Victor Bache, qui était le président de la Ligue des droits de l'homme. Le grand poète Max Jacob, qui est arrêté en tant que juif et qui mourra à Drancy. Pierre Brossolette, le président qui est à l'origine du CNR, et qui mourra sous la torture sans parler. Le grand historien Marc Bloch, assassiné par la Gestapo. L'ancien ministre du Front Populaire, Jean Zay, assassiné par la milice, tout comme Georges Mandel. Autrement, ayant une pensée pour l'auteur du Petit Prince, qu'il n'a pas vu paraître, puisque ça a paru d'abord aux États-Unis, Antoine de Saint-Exupéry est abattu dans son avion, il venait de prendre des photos indispensables pour le débarquement de Provence, il est abattu à proximité de Marseille, en mer, le 31 juillet 1944. Autrement, le dramaturge Jean Giraudoux, l'écrivain Romain Rolland, le peintre Kandinsky, le peintre Piet Mondrian, le peintre Édouard Munch, norvégien, et le compositeur de musique célèbre qui meurt dans un accident d'avion, qui est américain, Glenn Miller. Alors pour les naissances, désolé du choix, toujours dans l'ordre chronologique, Françoise Hardy, Marie-Christine Barrault, Marie-France Pisier, actrice, la championne de ski, Annie Famoz, le chanteur, Michel Polnareff, l'actrice, Géraldine Chaplin, et Coluche. Voilà, à bientôt pour la suite des années décennales. Merci à vous.